Merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Nous sommes sur le continent américain jusqu'à midi, temps universel. Midi, ce sera l'heure du journal de Charlotte Hydrac, qui est à côté de moi. Bonjour Charlotte.
Bonjour, on reviendra bien sûr sur les ultimes tractations et la vague de désistement qui se poursuit en France pour faire barrage à l'extrême droite, hein, en position de force, en vue du second tour des législatives de dimanche. Se maintenir ou se retirer, les candidats qualifiés ont jusqu'à ce soir 18h pour se prononcer. Le terrain judiciaire est dégagé pour Donald Trump en vue de la présidentielle de novembre aux États-Unis. La Cour suprême américaine lui accorde une immunité au moins partielle. Alors concrètement, un éventuel procès pour son rôle dans l'invasion du Capitole en 2021 est encore retardé. Et l'ancien président, on le verra, veut en profiter pour reporter également le verdict dans l'affaire Stormy Daniels. À suivre aussi Viktor Orban à Kiev. C'est le premier déplacement en Ukraine du premier ministre hongrois, proche de Moscou depuis le début de l'invasion russe. Le feu vert de l'armée en Israël pour entamer la phase 3 de la guerre à Gaza, censée amorcer un retrait progressif des troupes. Le méga ouragan Beryl qui balaye le sud-est des Antilles. Il y a au moins un mort et beaucoup, beaucoup de dégâts. Et puis ça va faire du bien à tout le monde. Une rencontre musicale à suivre aussi tout à l'heure avec King Anna, duo britannique qui vient de sortir un deuxième album. Ça s'appelle Big Swimmer et It Rocks. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Charlotte. Et d'ici midi, temps universel, nous allons parler nous aussi de la visite de Viktor Orban à Kiev. On parlera aussi de la montée de l'extrême droite en Europe, aux Pays-Bas, où elle va gouverner pour la première fois, et puis au Royaume-Uni, avec la montée en puissance de ce personnage, Nigel Farage, artisan du Brexit, et bien placé pour les législatives anticipées de jeudi. On parlera aussi réconciliation franco-allemande.
RFI, l'Europe à midi.
Mais d'abord donc, on parle de cette première, de cette surprise aussi. Le Premier ministre hongrois est à Kiev aujourd'hui. L'ultranationaliste Viktor Orban, qui s'est tant opposé à la livraison d'armes européennes à l'Ukraine, a rencontré ce matin Volodymyr Zelensky. Alors, tous les deux entretiennent des relations plutôt mauvaises, hein, voire carrément glaciales, Daniel Valo.
Oui.
Donc ce déplacement est scruté de près par beaucoup d'Européens. C'est le premier depuis l'invasion russe de 2022.
Oui, et le Premier ministre hongrois était l'un des tout derniers dirigeants de l'Union européenne à ne pas s'être rendu en Ukraine. Le simple fait de se déplacer à Kiev et d'y rencontrer le président ukrainien constitue donc en soi un événement. Viktor Orban n'a jamais caché, depuis que le conflit a éclaté, son hostilité au soutien apporté par l'Europe à l'Ukraine face à la Russie, ni sa volonté de rester en bon terme avec Vladimir Poutine. À contre-courant de ses homologues européens, le dirigeant hongrois désapprouve les sanctions à l'encontre de Moscou et continue d'ailleurs d'acheter du gaz russe. Il a aussi freiner à plusieurs reprises au sein de l'Union européenne les grandes décisions prises en faveur de l'Ukraine, l'aide de 50 milliards d'euros adoptée en début d'année ou bien sûr l'ouverture des négociations d'adhésion. Pas question non plus pour Viktor Orban de fournir des armes à l'Ukraine.
Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que le dirigeant hongrois fasse ce déplacement aujourd'hui et puis surtout qu'est-ce qu'on peut en attendre, Daniel ?
Eh bien il y a un contexte précis. La Hongrie vient tout juste de prendre la présidence tournante du Conseil européen et le dirigeant hongrois veut peut-être envoyer un signal de conciliation et de bonne volonté à ses homologues de l'UE. Que peut-on en attendre ? Difficile à ce stade de répondre à cette question. Le thème le plus important de ces discussions sera la possibilité de bâtir la paix, a simplement déclaré l'attaché de presse de Viktor Orban sans donner plus de détails. Mais outre le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il sera sans doute question d'un autre sujet qui divise profondément les deux pays depuis des années, la situation de la minorité hongroise qui vit en Ukraine, 100 000 personnes environ installées dans l'ouest du pays, en Transcarpathie, à la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie. Depuis des années, Viktor Orban accuse l'Ukraine de bafouer les droits de cette minorité sur la question notamment de l'enseignement de la langue hongroise. Selon le quotidien britannique The Guardian, un accord aurait été conclu en amont de ce déplacement et sera donc annoncé à cette occasion.
Accord conclu donc avant cette visite, Daniel Valo, du Premier ministre hongrois ultra-conservateur et populiste et qui occupe la présidence tournante pour 6 mois à Bruxelles à la tête d'une Europe qui vire à droite très à droite, on l'a vu lors des élections européennes au début du mois de juin, et puis lors de plusieurs scrutins nationaux en France, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, où le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche du pouvoir, et puis aux Pays-Bas, où l'extrême droite fait son entrée dans le gouvernement. Le nouveau Premier ministre et son équipe ont prêté serment ce matin. Ils sont 16 ministres, et parmi eux, 5 font partie du PVV, le mouvement qui siège dans le même groupe que le Rassemblement national au Parlement européen. Son leader, Geert Wilders, est connu pour ses provocations, pour ses discours racistes. Il a dit par exemple qu'il y avait trop de Marocains aux Pays-Bas. Il s'était illustré aussi en comparant le Coran à Mein Kampf, le livre écrit par Hitler. Alors, même s'il n'est pas majoritaire et si son score était un peu en deçà de ce qu'annonçaient les sondages, c'est une victoire pour l'extrême droite, hein, Pierre Benazet, qui participe donc pour la première fois au gouvernement aux Pays-Bas.
Oui, et sur la photo de famille du nouveau gouvernement, c'est Dick Schroef qui se tient à droite du roi Guillaume-Alexandre. Dick Schroef, c'est le nouveau ministre-président, c'est-à-dire le Premier ministre, un haut fonctionnaire apolitique qui a entre autres dirigé le service de renseignement des Pays-Bas. Mais le grand absent de cette photo, c'est évidemment Geert Wilders. Il a renoncé à devenir Premier ministre à cause des tensions avec les trois autres partis de la coalition. 5 membres de son parti, vous le disiez, sont désormais ministres. Le PVV, le Parti pour la Liberté, détient un portefeuille ministériel clé aux yeux de Geert Wilders, celui de l'asile et de la migration. Il est entre les mains de Marjolaine Faber, qui par le passé a évoqué le grand remplacement, mais est revenu sur ses propos. L'accord de coalition prévoit un durcissement de la politique d'asile, avec la volonté de tenter de sortir des politiques migratoires européennes.
Alors, Geert Wilders arrivait largement en tête aux législatives, donc, mais est-ce que pour autant il a les coups des franges dans ce gouvernement, même si son parti obtient quand même un tiers des portefeuilles ministériels?
Alors, en tout cas, le PVV entre pour la première fois au gouvernement, mais Geert Wilders a en fait déjà participé au pouvoir. En 2010, son Parti pour la Liberté a été partenaire silencieux du premier gouvernement de Mark Rutte qui s'en va aujourd'hui. Il n'avait pas de portefeuille ministériel, mais il soutenait la coalition au Parlement. Il avait par exemple réussi à obtenir l'inscription de certaines de ses priorités sur la politique d'asile, déjà, ou encore le relèvement de 120 à 130 km/h de la vitesse sur autoroute. Cette fois-ci, c'est un des concepteurs de l'accord de coalition qui entre en vigueur aujourd'hui, mais cet accord de coalition va aussi limiter les ambitions de Geert Wilders. Il ne pourra pas appliquer tout son programme puisque l'accord prévoit par exemple la poursuite, on en parlait, du soutien militaire à l'Ukraine alors qu'il y était personnellement opposé. Les premiers chasseurs F-16 néerlandais doivent d'ailleurs arriver incessamment à Kiev et la pratique politique aux Pays-Bas ne permet pas de s'écarter des accords de coalition.
Pierre Benazet en direct sur RFI, il est 13h37. À Paris, on va prendre maintenant la direction du Royaume-Uni où, là aussi, l'extrême droite et le populisme ont le vent en poupe. À 2 jours des élections législatives anticipées qui s'annoncent catastrophiques pour les conservateurs au pouvoir. Alors là, les travaillistes devraient l'emporter très largement, mais cela n'empêche pas une figure d'extrême droite de refaire surface. Nigel Farage brigue un siège de député à Clacton-on-Sea, c'est une ville balnéaire de l'est de l'Angleterre. Le mauvais génie du Brexit, aujourd'hui à la tête du mouvement Reform UK, tient toujours les mêmes discours anti-immigration et ses propos trouvent un certain écho parmi la population de cette ville pauvre de l'Angleterre. Comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre correspondante Marie Billon, un tel écho d'ailleurs que Nigel Farage a cette fois-ci une vraie chance d'être élu au Parlement.
Assis sur un banc au bord de la plage de Clacton-on-Sea, Phil et Clara prennent le soleil. Ils ont l'air de profiter du beau temps et de la vie. Ils sont à Clacton pour cette journée ensoleillée, mais en vérité, ils ne sont pas très contents.
Je suis indignée du coût du carburant, du coût de la vie, de tout. De l'augmentation de nos factures et de tout le reste. Il faut faciliter les choses pour les primo-accédants, pour qu'ils puissent s'acheter un logement. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. Les loyers sont tellement élevés qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Qu'est-ce que je pourrais vouloir d'autre ?
Je veux qu'ils arrêtent les migrants qui traversent la Manche et posent le pied sur nos côtes. C'est ce qui m'énerve le plus. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait le courage de faire quelque chose. Les conservateurs ont eu 14 ans pour agir, mais tout ce que le Premier ministre fait, c'est parler et parler.
C'est pour ça que le couple compte bien voter pour le parti Reform UK. Un peu plus loin, au pub The Moon and Starfish, près de la jetée, Bob avale un whisky au bar avant de retourner s'asseoir avec une pinte de bière. Mais avant d'attraper son verre, il soulève un maillot type maillot de foot avec le dessin d'un Union Jack pour montrer un t-shirt bleu, celui de Reform UK.
I'm no racist.
Je ne suis pas raciste, mais nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas continuer à accueillir un nombre illimité de migrants. Nos infrastructures ne peuvent pas le supporter. Nos services de santé ne peuvent pas le supporter. Nos écoles ne peuvent pas le supporter. Personne ne semble savoir comment résoudre le problème. Nous avons donc vraiment besoin de quelqu'un qui ait la volonté nécessaire pour faire quelque chose, plutôt que de continuer à laisser entrer dans le pays un tel nombre de personnes, la plupart, d'accord, légalement, mais beaucoup illégalement.
Et celui qui peut changer les choses, selon beaucoup, à Clacton-on-Sea, c'est Nigel Farage.
Because he's got it.
Il a un truc, dit cet homme, assis au pub, qui d'ailleurs ne se trouve qu'à quelques mètres du QG de Reform UK à Clacton. Entre deux salles de jeu remplies de machines à sous ou de pains à peluches, David fait les 100 pas, les bras chargés de pancartes promouvant Reform UK et surtout Nigel Farage.
Je n'ai jamais été actif politiquement. En fait, je n'ai pas voté avant l'âge de 30 ans. Mais j'avais des opinions et un soir, je regardais à la télévision une émission appelée Question Time sur la BBC. Et il y avait un panel d'invités dont l'un était un type dont je n'avais jamais entendu parler auparavant et qui s'appelait Nigel Farage. Je l'ai écouté et je me suis dit, mon Dieu, cet homme dit ce que je ressens, il dit ce que je pense. Je l'ai cherché sur Google, le lendemain j'ai découvert de quoi il en retournait. Depuis, j'ai adhéré au UKIP, sauf que maintenant ça s'appelle Reform UK.
Selon les sondages, Nigel Farage pourrait bien être élu ici à Clacton-on-Sea le 4 juillet prochain, et même ceux qui ne vont pas voter pour lui s'en feront une raison. Nigel Brand, par exemple, qui compte voter pour le conservateur qui représente actuellement la circonscription.
Je ne voterai pas pour lui, car je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il défend. Je comprends ce qu'il dit sur le fait que les gens en ont assez des partis traditionnels. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut un peu de changement dans la politique anglaise. Personnellement, je ne suis pas contre son entrée au Parlement, car je pense qu'il fera bouger les choses. Il mettra les autres partis mal à l'aise. Et je pense que c'est une bonne chose. Car depuis trop longtemps, il n'y a pas eu de véritable opposition, ce qui a permis aux conservateurs de faire à peu près ce qu'ils voulaient.
Malgré tout, Nigel Brown n'est pas content de l'analyse que le parti Reform UK et certains de ses voisins font de l'immigration.
Je ne pense pas que l'immigration légale puisse poser problème à qui que ce soit dans ce pays. En tout cas, ça ne devrait pas. Le pays aurait vraiment du mal à s'en sortir sans les travailleurs étrangers. Si vous regardez les hôpitaux, les secteurs des services à la personne, les exploitations agricoles, etc., ce sont les emplois que ces gens occupent dans notre pays. Quand on dit qu'ils nous prennent du travail, c'est de la foutaise, parce qu'une grande partie des emplois que les immigrants légaux occupent, les Anglais n'en veulent pas, parce qu'ils peuvent probablement obtenir autant, voire plus avec les allocations.
Nigel Farage, il y a quelques années, était une personnalité qui plaisait ou bien déplaisait, mais laissait peu de place à l'hésitation. Aujourd'hui, il fait partie du paysage et il invoque moins de sentiments épidermiques. C'est aussi pour cette raison, et avec le ras-le-bol des conservateurs au pouvoir depuis 14 ans, qu'il pourrait être élu à Clacton-on-Sea.
Reportage de notre correspondante au Royaume-Uni, Marie Billon. Les élections législatives, ce sera jeudi au Royaume-Uni. Et puis en France, ce sera dimanche. On en parlait tout à l'heure. On a mentionné les inquiétudes des médecins étrangers et des LGBT face à la montée de l'extrême droite. Eh bien, la possibilité de voir le RN accéder au pouvoir préoccupe aussi à l'étranger, notamment du côté du principal partenaire en Europe, l'Allemagne, où notre correspondant a rencontré hier des habitants pas du tout sereins.
Moi, ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est un problème qu'on a longtemps négligé. Enfin, que moi, personnellement, j'ai pas pris au sérieux parce que j'avais l'impression que les partis d'extrême droite, c'était un problème du passé.
Jean-Baptiste Tabel est un avocat franco-allemand qui a fait ses études et vit depuis longtemps en Allemagne. Même si les succès du Rassemblement national ne sont pas nouveaux, il se dit surpris. D'autres personnes venues pour suivre le match France-Belgique au Centre français de Berlin sont moins surprises, comme Isabelle.
On s'y attendait. Voyons ce que donne le second tour. J'ai encore l'espoir qu'il n'arrive pas au pouvoir, mais ça en prend le chemin.
Pour autant, la panique ne gagne pas ces Allemands interrogés qui pensent que la solidité des relations entre Paris et Berlin peut résister à une victoire du Rassemblement national, comme l'Europe. Patrick.
Je ne m'inquiète pas pour l'Europe pour l'instant. Tant qu'il y a des institutions démocratiques, elles peuvent canaliser de tels gouvernements.
En Allemagne aussi, l'extrême droite progresse. L'AFD a obtenu 16%. Aux européennes et dans l'est du pays, le mouvement enregistre des scores comparables à ceux du Rassemblement national en France. Mais l'AFD n'est pas devenu un parti comme les autres et le Front républicain reste fort. Pour Jean-Baptiste Tabel, cette différence devra se faire sentir en Allemagne si le RN arrive au pouvoir.
Il faudrait bien qu'on trouve une façon de montrer quand même que c'est pas la France que nous voudrons représenter en Allemagne.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Anne Contner.
13h45 à Berlin. Nous continuons à parler de l'actualité en Europe durant le prochain quart d'heure. Le chancelier allemand est en Pologne. Une visite dans un pays avec lequel les relations ont toujours été compliquées. L'histoire, et en particulier la Seconde Guerre mondiale, n'est pas oubliée. Loin de là, l'occupation, la décision d'Hitler de raser la capitale après le soulèvement de Varsovie, les camps de concentration et aujourd'hui la question des réparations. Alors, pour fluidifier les relations, pour réconcilier Polonais et Allemands, pour mieux se connaître surtout, il existe des programmes de rencontres et notre reporter Frédéric Lebel a pu suivre un groupe de jeunes Polonais à Berlin.
Pour des jeunes nés entre 2005 et 2008, entre Varsovie et Berlin, la question n'est pas tant celle de la réconciliation que celle de la connaissance. Entre jeunes Allemands et Polonais, on ne partage pas les mêmes figures historiques ni les mêmes références. Alexander Klimuk est le chef du département éducation de l'Institut Witold Pilecki à Berlin. Pilecki, un héros en Pologne, un inconnu de l'autre côté de la frontière.
Witold Pilecki est la figure emblématique de notre institut. C'est, au vu de nos connaissances historiques, la seule personne qui a cherché volontairement à être déportée à Auschwitz. Il s'est livré à la Gestapo. C'était une mission secrète pour collecter des informations sur le camp et informer le monde des crimes commis par les nazis. Et il a survécu.
Witold Pilecki, qui a pu s'évader d'Auschwitz, a ensuite été exécuté en 1948 par le régime communiste polonais. C'est un symbole de la lutte contre toutes les extrêmes. Entre jeunes Allemands et Polonais, il faut donc apprendre à se connaître et apprendre l'histoire. Cette année, la rencontre est placée sous le signe du 80e anniversaire de l'insurrection de Varsovie. En 1944, la résistance polonaise se soulève contre l'Allemagne nazie pour tenter de sauver la souveraineté du pays avant l'arrivée de l'armée rouge. Bilan, 200 000 morts, la destruction quasi totale de Varsovie et depuis, une commémoration tous les 1er août. À la grande surprise de la jeune Polonaise Eva, le groupe des jeunes Allemands n'en avait jamais entendu parler.
On nous a dit qu'ils connaissaient peu de choses sur l'insurrection de Varsovie et en effet on s'est rendu compte qu'ils la confondaient avec le soulèvement du ghetto. Lors des présentations, ils mettaient par exemple des photos du ghetto.
Perrine, étudiante française en master d'histoire, est venue en stage. Elle connaît bien cet épisode central de l'histoire polonaise.
Ça résonne encore aujourd'hui parce que c'est vraiment des moments clés de l'histoire où la démocratie elle est mise de côté avec la guerre en Ukraine, où la démocratie bah, c'est pas quelque chose d'acquis. Donc il faut de nouveau continuellement se battre pour que la démocratie reste et que les gens puissent vivre librement et ne pas subir en fait. Le plus subir en fait. Et c'est aussi ça aussi qui est important dans l'insurrection de Varsovie, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, ils ont pas voulu subir passivement en fait. Ils ont combattu jusqu'au bout et ça je pense que c'est vraiment important de le dire.
Aujourd'hui, entre la crainte de la Russie et la montée de l'extrême droite, le climat est lourd de signification pour Laura, jeune lycéenne allemande de 18 ans.
On voit avec les résultats des élections européennes en Allemagne que les partis de droite sont plus forts et que les gens d'extrême droite sont malheureusement de plus en plus nombreux. C'est comme si l'histoire se répétait à nouveau. Quand on regarde le national-socialisme, le parti d'alors, le NSDAP et l'AfD, aujourd'hui en Allemagne, on trouve des équivalences. C'est pourquoi je trouve que c'est vraiment important de parler de l'impact que peuvent avoir de tels partis afin que nous ne retombions pas dans une période comme celle du nazisme.
La visite du camp de Ravensbrück faisait partie du programme. C'est là que la plupart des résistants polonais qui se sont soulevés en 1944 ont été déportés. À Varsovie, Paula, 18 ans, a découvert que cette histoire, avec un grand H, était aussi la sienne.
J'ai parlé à ma grand-mère et elle m'a dit que sa mère avait été déportée au camp de Ravensbrück. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à cette conversation 2 semaines avant le voyage. Alors, sur place, samedi et dimanche, j'ai pu récupérer des documents, voir qu'elle avait vécu dans le baraquement numéro 28. Elle y est restée 6 mois avant d'être libérée.
Ces 5 jours de travail sur la mémoire sont ponctués de jeux, de dessins et de séances de détente. Les émotions sont intenses, il faut les canaliser. Par équipe, on travaille aussi de manière plus active et concrète sur le passé. On enquête sur des objets retrouvés dans 3 camps de concentration. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont entreposés en Allemagne aux archives d'Arolsen. Des milliers de bagues, de montres, de photos, de documents ou de lettres qui attendent d'être rendus aux familles des victimes. Anke Münster, des archives, en a déjà restitué.
3 frères néerlandais sont venus jusque chez nous à Arolsen et on a pu leur rendre la lettre d'adieu que leur père avait écrite. C'était un résistant qui avait été déporté dans un camp de concentration. Il a cherché à faire sortir la lettre, mais sans succès. C'est seulement plus de 70 ans plus tard qu'elle a pu rejoindre ses destinataires. C'était tellement émouvant, je ne l'oublierai jamais.
À l'issue du stage, de retour chez soi, chaque groupe d'étudiants va continuer son enquête. Un travail de fourmi, avec peut-être à la clé la restitution à la famille d'une victime, d'un bijou ou d'un papier tombé dans l'oubli.
Reportage de Frédéric Lebel à retrouver ce soir dans Accent d'Europe, 19h10, temps universel. Frédéric qui est avec nous en studio, bonjour.
Bonjour.
On le comprend, dans ce reportage, les relations entre l'Allemagne et la Pologne font l'objet d'un travail constant et en particulier auprès des jeunes.
Oui, tout comme dans les relations franco-allemandes avec l'OFAGE, il existe un office germano-polonais qui a supervisé des programmes d'échange pour 3 millions de jeunes. Et puis tout comme entre Paris et Berlin, l'histoire est ponctuée aussi de moments forts de réconciliation. En 1970, le chancelier Willy Brandt s'était agenouillé devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Plus récemment, en 2019, le chancelier a solennellement demandé pardon aux Polonais 80 ans, jour pour jour, après l'invasion de la Pologne par le Troisième Reich.
Mais cette réconciliation, elle était au point mort durant les 8 années de pouvoir du parti populiste, du PiS, qui, il faut le rappeler, a perdu les élections en décembre, au profit cette fois du centriste pro-européen Donald Tusk.
Oui, pendant toutes ces années au pouvoir, le parti PiS n'a cessé de tenir un discours très anti-germanique, voulant rouvrir le dossier des réparations entre les deux pays suite à l'occupation nazie, réclamant à Berlin la somme pharaonique de 1300 milliards d'euros, une demande aujourd'hui abandonnée.
Sur le fond, que reprochait Varsovie à Berlin ?
Eh bien, beaucoup de choses. Il y a un lourd passif historique, avec toujours la crainte de la Pologne de disparaître de la carte, ce qui a été le cas au XIXe siècle, ce qui a failli se passer en 1938 avec le pacte germano-soviétique. Aujourd'hui, la Pologne reproche toujours à l'Allemagne de ne pas assez se méfier de la Russie, qu'il s'agisse des contrats gaziers passés avec la Russie ou dans le conflit en Ukraine, ses hésitations pour livrer les fameux chars Léopard à Kiev.
Mais aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement Tusk, les relations sont au beau fixe.
Oui, les différends avec l'Europe sur l'état de droit appartiennent au passé. On a vu aussi ressurgir un format de coopération qu'on avait oublié, le triangle de Weimar, soit la réunion des 3 ministres des Affaires étrangères, polonais, allemands et français. Ils veulent relancer la défense européenne et mieux gérer les sanctions contre la Russie. Enfin, sur le plan économique, c'est toujours le beau fixe. L'Allemagne reste le premier investisseur en Pologne.
Merci Frédéric Lebel. Nos auditeurs vous retrouvent ce soir dans Accent d'Europe ou bien à n'importe quelle heure de la journée sur l'application RFI Pure Radio. Notre monde de tech et un gros plan aujourd'hui sur les groupes d'ultra fast fashion, les sites de vente en ligne Shein et Temu, qui proposent des vêtements et autres accessoires à des prix absolument dérisoires, au mépris de la planète et peut-être au mépris aussi des règles européennes. En tout cas, Dominique Dezonnet, la Commission a envoyé une demande d'information dans le cadre de sa nouvelle loi Digital Services Act.
Oui, Bruxelles hausse le ton et exige des 2 enseignes chinoises de vente en ligne de lui fournir les documents techniques sur les mécanismes qui permettent, par exemple, aux internautes de signaler des produits illégaux ou contrefaits, de décrire le fonctionnement des interfaces numériques qui se dénomment les dark patterns qui sont utilisés sur leurs sites respectifs, afin de vous pousser à acheter toujours plus des articles dont vous n'avez a priori absolument pas besoin. Ces interfaces affichent par exemple des messages d'alerte qui pastillent votre écran pour profiter d'une fausse promotion ou encore multiplient des images et des photos qui ne correspondent pas pas du tout aux produits que vous recherchez. Autre préoccupation de l'UE, la protection des mineurs concernant la vente de contenus inappropriés comme des films ou des images pornographiques ou encore l'absence ou la présence de dispositifs de lutte contre les achats compulsifs des jeunes consommateurs. Les systèmes de recommandation, la traçabilité des produits et la conformité au niveau de la conception de chaque article vendu par ces firmes chinoises de commerce électronique sont également dans le collimateur de la Commission européenne.
La Commission qui se penche donc sur les cas de Shine et Temu à la suite d'une plainte déposée par le Bureau européen des fédérations de protection des consommateurs.
Effectivement, cette demande d'explication se base sur une plainte lancée en mai dernier par le groupe des associations de protection des droits des consommateurs en Europe à l'encontre de Temu, accusant la plateforme chinoise de pousser les consommateurs à dépenser toujours plus. Par ailleurs, la boutique de mode en ligne Shine, qui compte plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE, a été désignée par la Commission européenne comme une grande plateforme en ligne et à ce titre, elle doit désormais se conformer aux règles les plus strictes du DSA. Si les mesures présentées par les deux plateformes sont jugées insuffisantes par Bruxelles, elles s'exposent à l'ouverture formelle d'une procédure qui débouchera sur des sanctions financières. Elles risquent ainsi une amende s'élevant à 6% de leur chiffre d'affaires mondial et annuel, soit un peu moins d'1 milliard d'euros pour Temu et une amende d'environ de 3 milliards d'euros pour l'enseigne Shine. Les deux plateformes chinoises ont jusqu'au 12 juillet pour détailler les actions concrètes qu'elles ont prises pour se conformer au nouveau règlement européen sur le numérique.
Dominique Dezonnet pour notre monde de tech. Autre dossier sur la table de la Commission européenne, c'est le plan climat. La Commission hausse le ton aujourd'hui contre plusieurs pays membres qui auraient dû remettre dimanche au plus tard leur plan national énergie-climat. C'est une feuille de route qui détaille les actions prévues afin d'atteindre l'objectif de l'Union de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Oui, mais voilà, 4 pays seulement ont remis leur copie. Le Pays-Bas, le Danemark, la Finlande et la Suède. Pourquoi si peu et quelles conséquences? Élément de réponse avec Pauline Glaise.
La France, déjà pas en avance, a vu ses espoirs de rattraper son retard s'envoler avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Plus généralement, aux yeux de Fouquevin Nguyen, chercheur à l'Institut Jacques Delors, il faut chercher l'explication du côté des soubresauts géopolitiques de la guerre en Ukraine, à prendre en compte également les changements réglementaires de l'Union européenne.
A été voté au cours des 5 dernières années le pacte vert européen, donc un ensemble de réglementations qui visent à modifier en profondeur la manière dont on consomme, produit, on se déplace et on transforme l'énergie. Et pour intégrer tout ça au niveau national, eh bien, ça prend du temps. Vraisemblablement, un grand nombre d'États membres ont encore besoin de réfléchir quant à la manière dont ils vont déployer ce nouvel acquis communautaire vert au niveau domestique.
Ce retard dans la remise des feuilles de route n'est pas grave en soi, estime Fouquevin Nguyen, si la version finale permet d'atteindre les objectifs.
Par contre, il faudra être très précis après sur la mise en œuvre. Il y aura également de la part des États membres une nécessité d'accélérer le déploiement sur les niveaux territoriaux, par exemple. Et là, ça demandera beaucoup d'investissements, de formation, etc.
La Commission européenne appelle les États à remettre leurs plans dans les plus brefs délais. Le temps presse en matière d'énergie et de climat. 2030, c'est presque demain.
Pauline Glaise, 13h58 ici à Paris. Dans 2 minutes, un nouveau journal. Puis nous parlerons avec notre invité de la décision de la Cour suprême aux États-Unis d'étendre l'immunité présidentielle de Donald Trump, vue comme une victoire par l'ancien président et candidat à la présidentielle de novembre, mais comme un dangereux précédent par son rival, le chef de l'État Joe Biden. Et puis à midi et demi, temps universel, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez tout à l'heure
de la contestation au Kenya et de nouveaux appels à manifester une semaine après la répression sanglante de rassemblements contre un projet de loi de finances finalement abandonné. De petits rassemblements sont signalés ce matin à Nairobi, systématiquement dispersés par la police. Et puis l'initiative de réconciliation avec le Niger des anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï. Ils étaient à Niamey la semaine dernière. Ils ont vu hier le président Talon. Des propositions pour renouer le dialogue entre les deux pays sont sur la table.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Et quelques notes de musique pour nous accompagner jusqu'au journal de midi. Voici la chanteuse, autrice, compositrice nigériane Tems avec Love Me JJ. So fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling lean.